que vous êtes. Alléluia. J'ai encore à cœur aussi de prier. Seigneur, vraiment, c'est vrai que je te remercie pour la prière de David, pour le temps de ce matin. Je te remercie parce que tu es notre force. Nos regards sont sur toi, Seigneur, et nous attendons à toi en tout temps. Apprends-nous à te faire confiance davantage. Apprends-nous à grandir avec toi. Apprends-nous à nous approcher de toi jour après jour, à nous attacher à toi d'une façon nouvelle, à t'aimer d'une façon nouvelle, à te voir d'une façon nouvelle, à te contempler d'une façon nouvelle. Seigneur, nous voulons être radical avec toi. Nous ne voulons pas être à moitié avec toi, nous ne voulons pas te regarder de loin. Seigneur, que nous soyons des gens, des jeunes, des enfants, des femmes, des hommes qui s'approchent de toi, qui montons sur la montagne pour adorer l'Éternel. Nous voulons monter sur la montagne. Nous voulons, Seigneur, rentrer plus près de toi, plus près dans ta présence. Nous ne voulons plus être privés de toi, Seigneur. Nous avons été privés de toi longtemps. Nous avons été privés, même en te connaissant, on t'a connu de loin. Et on a été beaucoup privés de ta présence, beaucoup privés de ta grâce et de ta gloire. Et Seigneur, nous voulons plus être privés. Nous voulons goûter. Nous voulons goûter à ta présence, nous voulons goûter à ta gloire et à ton amour pour nous. Touche nos vies, Seigneur. Envoie ton esprit au milieu de nous, dans nos vies, dans nos cœurs. Père, au nom de Jésus. Amen. En ces temps de Pourim, je me suis dit, bon, je vais parler certainement un petit peu d'Esther. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des choses qui m'ont touché dans ce livre. Et en même temps, il y avait des choses que j'avais sur le cœur, donc le Seigneur a permis qu'ils se relient les uns aux autres. Alors, je ne vais pas faire une étude du livre d'Esther, ce serait trop gros. Par contre, je me suis dit qu'on allait peut-être survoler rapidement et voir quelques points intéressants. Est-ce que vous êtes prêts avec moi pour aller dans ce petit voyage? Vous êtes prêts? Il va falloir qu'on s'envole un peu, hein? Donc, il y a première étape, j'ai eu à cœur de voir des descriptions qu'il y avait. Une description de quelque chose de particulier dans le livre d'Esther. Et ceux qui ont déjà lu le livre d'Esther, à quoi il faut penser? Qu'est-ce que vous avez l'impression qu'il y a comme des descriptions qui ressortent? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous marque? Quelque chose qui est quelque chose d'assez évident, de très présent. Pour moi, c'est la description du royaume de Dieu. Il y a une description d'un royaume, hein, puisqu'on parle d'un roi qui s'appelait Assuérus, qu'on appelle aussi Xerxès a priori, qui régnait en Inde, de l'Inde jusqu'à l'Éthiopie, 127 provinces. Donc il y a un royaume qui est décrit ici, avec un roi. Et ce roi était assis sur son trône royal. C'est sa position. Le roi est sur un trône. La troisième année de son règne, il fit un festin à tous les princes et à ses serviteurs. Les commandants de l'armée, les grands, les chefs des provinces furent réunis en sa présence. Est-ce que ça vous parle de quelque chose? Est-ce que je vous le relis? La troisième année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et à ses serviteurs, aux commandants de l'armée, aux grands, aux chefs des provinces qui furent réunis en sa présence. Ben, ça me parle du ciel. Ça me parle du royaume. Le roi est assis sur son trône et il règne. Il règne sur de multiples provinces et il rassemble autour de lui ses commandants, ses chefs, ses serviteurs, ses princes, ses grands. Il les rassemble autour de lui. Et vous savez que dans le ciel, il y a un rassemblement. Il y a un rassemblement de ceux qui sont déjà là et il y aura plus tard un rassemblement de ceux qui vont arriver. Et vous savez que vous en êtes. Vous ferez partie des commandants, des chefs, des princes, des serviteurs, des superintendants. C'est votre appel, c'est votre rôle. Vous serez là. Quand le roi sur son trône va rassembler les siens, il y aura toi. Tu seras présent. C'est ton appel, c'est ton rôle. Tu n'as pas un appel en dessous de ça. Si ton appel est en dessous de ça, c'est que tu t'es trompé. Si ta vision elle est inférieure à cette place que le roi va rassembler les siens autour de lui, tu t'es trompé. Le Seigneur n'a pas un petit appel pour toi. Le Seigneur a un grand appel. Tu dois savoir et tu dois te convaincre et tu dois enlever tout ce qui te ferait douter de ça, que ton appel, c'est d'être là dans ce verset 3, parmi les grands, parmi les princes, parmi les chefs, parmi les commandants de l'armée. C'est ta place. Tu y es appelé. Il y a beaucoup d'appelés. Par contre, après, il y a ceux qui répondent. Est-ce que toi, tu es prêt à répondre? Est-ce que tu es prêt à dire oui, j'y serai? C'est là que je veux être et pas en dessous et pas ailleurs. C'est toi qui dois y répondre. C'est toi qui dois être d'accord. Tu dois te mettre d'accord avec ton Dieu. Tu dois te mettre d'accord de marcher avec le roi des rois dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui, devenir ton roi pour qu'un jour ils te reconnaissent et qu'ils disent oui, tu m'as accepté comme roi, tu m'as servi. Dans l'ombre peut-être, on ne t'a pas vu, peut-être qu'on ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et je sais que tu as marché avec moi comme un grand. Et maintenant viens, prends et rentre dans l'héritage qui t'a été réservé. Amen. Est-ce que vous voulez y être, hein? Amen. C'est notre place. Nous ne devons pas en douter. Nous ne devons pas croire que notre appel est petit. On ne doit pas croire que parce que notre nom n'est pas connu, notre appel est petit. Notre appel n'a rien à voir avec la célébrité de notre nom. Ça n'a aucun rapport. Ça n'a rien à voir avec la fonction qui est la nôtre dans la vie que Dieu nous a donnée sur terre. Ils ne sont pas liés. Ils sont liés à la qualité de notre service pour Dieu, là où Dieu nous a placés, à l'amour de Dieu qui est dans notre cœur et dans la crainte de Dieu qui nous a saisis. On marche dans la crainte de Dieu et dans l'amour de Dieu, et ça va définir notre appel et notre place dans le royaume. Deuxième description, il y a une reine splendide. Alors il y a eu deux reines, vous me permettez de les voir comme une pour l'instant. Toutes les deux, elles étaient belles. Le roi a une épouse qui est magnifique, c'est la plus belle du royaume. Amen. Église de Christ, bien-aimée du Seigneur, tu fais partie d'une épouse royale. Elle est splendide. Le roi était comment ? Fou d'amour. Il était amoureux de sa princesse, amoureux de sa reine. Et elle trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la rencontraient. Esther, tout le monde la trouvait super. Non seulement belle, mais avec un cœur magnifique, avec un caractère plein de parfum, plein de bonté, plein de générosité. Tout le monde était touché par ce qui émanait d'elle. Amen. Alors, on voit le royaume par le fait qu'il y a beaucoup de sept. Si vous lisez Esther, il y a énormément de sept. Il y a sept super, il y a sept serviteurs très proches du Seigneur. La parole les appelle des eunuques. Il y a sept conseillers. Esther est entourée de sept servantes. Ça nous décrit encore le royaume. Le royaume de Dieu dans son fonctionnement, dans sa structure. Il y a des superintendants, il y a des serviteurs, il y a des chefs de l'armée. Le royaume de Dieu est structuré. Et dans cette structure, il y a une place pour toi. Alors je ne sais pas si tu seras commandant d'armée, je ne sais pas si tu es appelé à être un des grands, un des conseillers, une des servantes particulières qui était un rôle magnifique. Je ne sais pas quel est ton appel. Mais il y en a un, et le Seigneur veut que tu le trouves. Le Seigneur veut que tu entendes sa voix. Et je parlerai encore de décrets puissants. Le roi, quand il décidait quelque chose, c'était un décret super puissant. C'était irrévocable. Même lui ne pouvait plus casser ce qu'il avait dit. Le roi a des décrets. Et les décrets du roi, ils sont prononcés par sa bouche et par ses porte-paroles. Et nous sommes appelés des porte-paroles du Seigneur à parler des décrets dans le monde. Que cela grandisse dans nos vies, au nom de Jésus. Et il reste encore une chose. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous marquez dans ce livre d'Esther ? Il y a quelque chose qu'on aime bien en tant que français. Des festins, des banquets. Il y en a 10. Il y a 10 festins, 10 banquets qui sont décrits. Alors, je me permets quand même de décrire un tout petit peu l'atmosphère du royaume. Est-ce que quelqu'un a la version du semeur ? J'ai oublié. Tu veux bien passer, Émilie ? Ça ne t'ennuie pas ? Merci beaucoup. Alors, écoutez bien la description du royaume. Hein. À la fin de cette période, l'empereur offrit à toute la population de Suse un banquet qui eut lieu pendant 7 jours. Hein, on n'est pas, c'est pas un banquet d'une soirée. Qui c'est qui a déjà fait un banquet de 7 jours ? Personne ? Ah bah, préparez-vous, hein. 7 jours de banquet. Et c'est pas le banquet du voisin d'à côté, hein. Des tentures de lin blanche et bleu ciel étaient fixées à des colonnes de marbre par des cordelières blanches et pourpres passées dans des anneaux d'argent. Des lits d'or et d'argent étaient disposés sur des dallages de mosaïques fait avec du porphyre, je ne sais pas ce que mais je sais que ça doit être luxueux, du marbre, de la nacre et de l'agate. On servait des boissons dans des coupes d'or, toutes différentes de formes. Le vin de l'empereur coulait avec une générosité toute impériale. Il avait été ordonné que chacun puisse boire à volonté, sans aucune contrainte, car l'empereur avait donné des ordres à tous les intendants du palais pour qu'il satisfasse les désirs de chacun de ses hôtes. Vous avez vu le fonctionnement du royaume ? Abondance, gloire, richesse, générosité et les désirs du cœur qui sont accomplis. Vous savez ce que la parole de Dieu dit ? Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Le désir du roi, c'est d'accomplir tes désirs. Mais ce qui se passera, c'est que tes désirs vont répondre aux désirs du roi. Ils vont aller de pair. Chacun va répondre aux désirs de l'autre. Tes désirs, ce seront d'accomplir les désirs du roi, et les désirs du roi, ce seront d'accomplir tes désirs. Et ça va être un crescendo. Amen. C'est quelque chose qui va grandir, parce que l'amour, ce n'est pas de se soigner soi-même, ce n'est pas de se faire plaisir à soi-même, c'est de bénir celui que l'on aime. C'est de lui faire du bien, et on a besoin de grandir dans ça. Voilà, c'était les descriptions du royaume. Et maintenant, j'aimerais passer à des événements saillants qui se sont passés dans ce livre, dans cette histoire. Alors, le premier qui ressort pour moi, à part le banquet, etc., c'est une reine qui est belle, qui est magnifique, la plus belle du royaume. Elle est désirée, elle est aimée. Le roi est fier d'elle. Il veut la montrer à tout le monde, tellement il l'aime. Tellement il est fier. Et qu'est-ce qui se passe ? Cette reine, pour une raison qu'on ne cerne pas dire complètement, elle refuse d'accomplir le désir du roi. Elle se dit, non, j'en ferai à ma tête. Je ferai comme je pense, ce qu'il me semble bon. Ok, tu es roi, mais quand même je suis reine. Quand même j'ai des droits. Quand même il y a une volonté propre, j'ai le droit de faire un peu ce que je veux. Et j'utilise mon droit de volonté pour dire non. Et la reine se rebelle. Chapitre 1, verset 10, 12. Le septième jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à ses 7 serviteurs qui servaient devant lui d'amener en sa présence la reine Vasti avec la couronne royale. Mais la reine refusa de venir. Et vous savez la conséquence ? Le roi fut énormément en colère, dans une irritation extrême. Vous vous rendez compte que le roi, on peut le mettre en colère. Il y a une colère du roi qui est venue par une reine qui s'est rebellée. Et vous savez ce que ça me parle ? Ça me parle d'une première reine que le roi avait aimée, qu'il l'avait choisie, qu'il l'avait préparée, qui l'avait revêtu de gloire et d'honneur, qui lui avait fait des promesses magnifiques et qui a désobéi, qui s'est rebellé. C'est Israël. Un peuple aimé, un peuple bien-aimé, un peuple chéri et un peuple qui s'est rebellé. Et un peuple qui, pendant un temps, la parole nous dit, a été rejeté, mis de côté, destitué, pendant un temps. Et on continuera tout à l'heure. Choix d'une nouvelle reine, chapitre 2, verset 17. L'action de la reine, qui parle de Vasti, parviendra à la connaissance de toutes les femmes. Elle portera à mépriser leur mari. Elles diront, le roi Cyrus avait ordonné qu'on amène en sa présence la reine Vasti. Elle n'y est pas allée. Et dès ce jour, les princesses de Perse et de Médie qui auront appris l'action de la reine la rapporteront à tous les chefs du roi. De là, beaucoup de mépris et de colère. Si le roi le trouve bon, qu'on publie de sa part et qu'on inscrive parmi les lois des Perses et des Mèdes, avec défense de la transgressée, une ordonnance royale d'après laquelle Vasti ne paraîtra plus devant le roi et que le roi donnera la dignité de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. Ça nous parle de qu'est-ce qui s'est passé. Israël, ayant désobéi à Dieu, s'étant rebellé, ne l'ayant plus servi, ça a servi de mauvais exemple aux autres nations. Elles ont commencé à croire qu'on n'était pas obligé de servir Dieu, parce que si Dieu n'avait pas pu être servi par Israël et qu'il ne disait rien, ça voulait dire que Dieu était méprisable, qu'on n'avait pas besoin de le servir et de l'adorer. Et Dieu a dit à Israël, Israël, je dois te punir et je dois sanctionner ce peuple afin que mon nom soit sanctifié parmi les nations. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Afin que les femmes du peuple de ce pays ne méprisent pas leur mari. Il a fallu qu'une autre reine soit cherchée. Et le Seigneur a dû chercher une autre reine, une autre épouse. Et quelle est cette épouse qu'il a cherchée? C'est les racheter. Est-ce que cette épouse est meilleure? Est-ce qu'elle elle a réussi quelque chose de mieux? Est-ce qu'elle a mieux obéi? Est-ce qu'elle a mieux servi? Non plus. Mais le Seigneur a fait la même chose avec nous. Il nous a aimés, il nous a rachetés par le sang, il nous a lavés, il nous a revêtus de gloire et de splendeur, et il a fait de nous une reine bien-aimée. Amen. Nous sommes une reine splendide pour Dieu. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le Seigneur trouve le roi trouve sa reine, il en est fou amoureux, et là on voit qu'il y a un ennemi qui se lève. Mais ce n'est pas encore un ennemi de la reine à ce moment-là. C'est simplement, pour l'instant, c'est un ami. Chapitre 3. Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de tous ceux qui étaient auprès de lui, au-dessus de tous les chefs. Tous les serviteurs du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi. Qu'est-ce qu'on voit? Un ami du roi, placé haut en dignité, élevé, il devient un des chefs suprêmes du royaume. Est-ce que ça vous fait penser à quelqu'un? Il y a eu un ami de Dieu qui était élevé, qui était un adorateur, qui était oint, qui était béni, qui a servi le Seigneur comme étant le chef des anges et qui à un moment donné, qui s'appelle Satan. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'orgueil est monté dans son cœur. Qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné dans son cœur? Il y a eu de la colère qui est venue, de la jalousie et de la haine, parce qu'un des serviteurs du roi ne voulait pas plier le genou devant lui, un juif. Un juif ne voulait pas plier le genou. La colère est venue dans le cœur de Aman et il a commencé à avoir un dessein malhonnête. Un dessein de méchanceté, un dessein de haine qui ressemble au dessein de son chef, Satan. Il a voulu détruire non seulement Aman, mais il a voulu détruire le peuple juif. Il était prêt à verser des milliards d'euros à Assuérus pour accomplir son projet. D'accord? Donc il y a eu un décret de mort au chapitre 3, verset 13. Des lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruise, qu'on tue et qu'on fasse périr tous les juifs, jeunes et vieux, petits et grands, femmes et hommes en un seul jour, le 13e du jour du mois d'Adar, pour que leurs biens soient livrés au pillage. Et la parole de Dieu nous dit qu'il avait jeté le pour. Et ça, c'est quelque chose de spécial. C'est comme s'il avait fait appel à de l'occultisme pour que son dessein soit accompli par une puissance occulte. Il a jeté le pour, le sort. Donc là, il y a un décret de mort qui est lancé contre les Juifs de toutes les provinces, et donc Israël y compris. Qu'est-ce que ça nous fait penser, ces décrets? Il y a des décrets de mort qui sont jetés encore aujourd'hui par le même ennemi, Aman, parce qu'Aman était un descendant d'Amalécite, donc c'était un des ennemis d'Israël depuis des siècles en arrière. Et c'est un ennemi qui subsiste encore, l'esprit d'Aman subsiste encore aujourd'hui. Et cet esprit a jeté des décrets de mort contre Israël. Vous savez qu'on veut détruire Israël. Il y a des décrets de mort contre l'Église. Et il y a des décrets de mort contre le monde, contre les nations. L'ennemi ne veut pas que les nations vivent. L'ennemi veut que les nations meurent et qu'elles ne connaissent pas le Seigneur et qu'elles ne soient pas sauvées. Il y a des décrets de mort actuellement en cours contre tout ce que Dieu a créé par l'ennemi. Chapitre 4. Alors, pardon. Donc, la suite, l'énoncement suivant, c'est qu'il y a une réaction, une intercession qui se lève. Chapitre 4, verset 1 à 3. Mardoché, ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis, il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris et se rendit jusqu'à la porte du roi. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi, il eut une grande souffrance, une grande désolation parmi les Juifs. Il jeûnait, il pleurait et il se lamentait. Beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Le décret de mort arrive aux oreilles du peuple de Dieu. Et qu'est-ce que fait le peuple de Dieu ? Il jeûne, il crie à Dieu, il se met dans l'intercession. Et je crois que c'est un des rôles de l'Église, de comprendre les décrets de mort et de se placer devant Dieu, seul ou en Église, et d'intercéder contre ces décrets de mort. Amen. Amen. Vous me suivez toujours ? Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? L'action souveraine de Dieu commence à se lever. Dieu n'est même pas présent dans ce livre. En tout cas, son nom n'est pas là. Il n'est pas cité. Mais on réalise qu'il est partout. On voit Dieu, la présence de Dieu qui se manifeste en tout. Et donc, il y a l'intercession. Donc, vous connaissez tout à fait l'histoire. Hein, Esther qui se prépare, qui va devant le roi, qui est reçue, etc. Mais l'événement suivant que je voudrais souligner, c'est l'action souveraine de Dieu. Chapitre 6. Cette nuit-là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Esther est venue devant le roi. Et puis, Mardoché, il a commencé à se dire... Haman. Il est invité par le roi, il va au festin de la reine, une première fois. Il est réinvité pour le lendemain suivant. Et pendant, il s'est dit, mais c'est pas possible. Moi, je suis invité chez le roi, la reine, j'ai un magnifique banquet. Mais on peut lire dans un verset, mais en fait, ça, j'en ai rien à faire. Moi, ce qui m'énerve, c'est que Mardoché, il soit toujours là. C'est la seule chose qui est dans le cœur d'Aman. Aman n'en a rien à faire du roi, de la reine, du banquet, du royaume. Il a que ses désirs qui s'occupent, qui comptent pour lui. Tout ce qu'il a envie, tout ce qu'il fait, c'est centré sur lui, moi, ma gloire, mon règne, mes désirs. C'est l'esprit d'Aman, s'occuper de lui-même. Et ça l'énerve que Mardoché soit là et qu'il ne courbe pas le genou devant lui. Et il s'est dit, mais moi, ça, je m'en fiche d'aller au festin le lendemain. Tout ce que je veux, c'est que Mardoché meure. Et il est prêt à le faire tuer entre les deux festins. Et c'est là que la Bible dit, cette nuit-là. Et c'est cette nuit-là qui me touche. Cette nuit-là. Tu ne sais pas quand Dieu va agir dans ta vie. Tu ne sais pas quand Dieu va intervenir dans le sujet de ton intercession. Mais au moment voulu, au temps choisi par Dieu, Dieu va se lever et il va agir. Le temps de Dieu est marqué dans son horloge. Et quand l'alarme elle va sonner, Dieu va se lever et son action sera surpuissante, sursuffisante, suffisante au-delà de la nécessité. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Il y a des anges qui le chatouillaient. Hein ? Il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. On les lut devant le roi. Et l'on trouva écrit ce que Mardoché avait révélé au sujet. Donc Mardoché avait révélé que des gens voulaient tuer le roi. Et donc ils avaient été pendus. Hein. Vous savez que pendu, c'était être empalé. Hein. Ils étaient empalés sur d'énormes potences. Donc le second, il était gentil, il a voulu mettre le mot pendu pour ne pas nous choquer. Le roi dit, quelle marque de dit... Donc ils découvrent cette histoire dans le livre des annales. Et le roi dit, mais qu'est-ce qu'il a reçu comme distinction et comme honneur, Mardoché, quand il a fait ça pour moi ? Il n'a rien reçu, dirent alors ceux qui le servaient. Le roi dit, mais c'est qui que je vois dans la cour qui arrive là ? Et Aman était dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardoché, de le faire empaler au bois qu'il avait préparé pour lui. Voilà le double deuxième temps de Dieu. La même nuit, quand Mardoché fait son projet, il vient et le roi est réveillé. Et au moment où Aman va demander la mort de Mardoché, il va demander sa tête. Le roi, il dit, Mardoché, qu'est-ce qu'on fait pour quelqu'un que le roi voudrait vraiment mettre en honneur suprême ? Et Aman, tout fier, ça peut être que moi, les gars. Hein. Écoute, tu le mets sur un roi, tu le mets sur un cheval, un manteau, le manteau même de l'empereur, la couronne, tu l'emmènes dans la ville, et devant tout le monde, tu fais crier, voilà ce qu'on fait pour l'homme que le roi veut honorer. Eh bien, écoute, Aman, franchement, je trouve ton idée géniale. Tu sais quoi, mon gars ? Tu vas y aller, tu vas prendre Mardoché, tu sais celui-là qui est à ma porte, là. Tu vas l'emmener, tu vas faire ça dans la ville. Et la honte de Aman a commencé à ce moment-là. Il a dû emmener cet homme, lui faire traverser la ville. Et l'homme qu'il voulait pendre et tuer, c'est lui, il a dû l'honorer et l'élever. Celui contre lequel il avait prononcé un décret de mort, il a dû s'humilier devant lui et l'honorer devant tout le monde. Amen. Et là, il y a des choses que Dieu veut commencer à nous dire. Mardoché rentra chez lui, désolé, honteux, confus, la tête voilée. Il raconta à sa femme, à tous ses amis, tout ce qui lui était arrivé. Et ils lui dirent, si Mardoché, devant lequel tu as commencé de tomber, est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Si Mardoché, devant lequel tu as commencé de tomber, est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Amen. J'ai envie de le chanter. Je voulais me retenir. Si cet homme est de la race des Juifs, cet homme devant lequel tu as commencé de tomber, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Si ton ennemi qui a décrété ta mort, il y a un ennemi qui a décrété ta mort, qui a décrété ta perte, mais il a commencé à tomber devant toi, et parce que tu es la race des Juifs, parce que tu es la race de l'Église des bien-aimés, l'ennemi va commencer à descendre devant toi, et il va tomber devant toi. Il a commencé à tomber devant toi. Jésus l'a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Il a commencé à tomber devant toi et il va tomber jusqu'au bout. Parce que tu es de la bonne race. Tu n'y es pour rien. Tu es juste de la bonne race. Tu es une bonne race. Je peux te le dire, tu es une bonne race. Tu es de bonne naissance. Tu es bien né. Tu as bien fait de venir. Tu as bien fait de naître en Christ. Tu as bien fait de naître de nouveau, tu es de la bonne race. Tu es de la race des Juifs, tu es de la race des seigneurs, tu es de la race des vainqueurs. Par naissance. Comme il parlait encore, les eunuques du roi arrivèrent et conduisirent aussitôt Aman au festin qu'Esther avait préparé. On a l'impression d'un film orchestré directement par Dieu. Vous vous rendez compte? Un film ne pourrait pas faire mieux au timing que Dieu est en train de nous indiquer dans ce livre. On a l'impression que Dieu a attendu et que d'un coup, tout s'est mis en route et que l'action de Dieu agit avec puissance. Chapitre 7, versets 9 et 10, il y a des échanges. Il y a des échanges. Vous savez cette histoire, hein? Donc il y a le festin, puis il y a Esther qui a fait attarder un petit peu, qui a mis du suspense, et puis au moment voulu, elle dit, elle demande au roi ce qu'il... Il lui a dit, demande-moi ce que tu veux, je suis prêt à tout te donner. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit aussi garder dans notre cœur. Le désir du roi, c'est de donner ce que tu demandes quand tu marches avec lui, quand tu lui es fidèle, quand tu marches comme Esther a marché avec le roi. Tu es comme Esther, le roi veut te donner la moitié de son royaume. Il y a un héritage qui t'attend, hein, on en parle souvent. Demande-moi ce que tu voudrais, je te le donnerai, quoi que ce soit que tu me demandes, parce que tu es ma bien-aimée, parce que tu marches avec moi dans ma crainte et dans mon amour. Alors la reine, elle dit, je veux que tu me fasses justice. Il y en a un qui est prêt à détruire mon peuple. Nous sommes vendus, excusez-moi, je vais reprendre au verset 4. Nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, massacrés. Encore si nous étions vendus que pour devenir serviteurs et servantes, je ne dirais rien. Mais là, on veut notre mort totale, notre extermination. Et l'ennemi ne saurait compenser la perte que va faire le roi. Et alors le roi prit la parole et dit, mais il est où celui qui veut agir ainsi? Et alors Esther dit, c'est Aman, ce méchant. Et Aman fut saisi de terreur en présence du roi et de la reine. La terreur de Dieu saisit l'ennemi. Dans plusieurs passages, il nous est parlé de la terreur de Dieu contre ses ennemis. Il y a une terreur de Dieu qui saisit l'ennemi à un moment donné. Il était arrivé tout guilleret, tout joyeux, la parole nous dit, tout joyeux, il vient au festin, tout guilleret. C'est au premier. Il vient au premier, tout guilleret. Waouh, c'est le festin, c'est moi, celui-là, cool. Et là, en un jour, en une seconde, sa sentence tombe. Il fut saisi. Là, il ne s'y attendait même pas, là. Il n'avait pas encore compris que c'était la fin pour lui. Il avait vu pour Mardoché, il avait compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, que ses plans étaient en train de changer. Quelque chose, il y avait une graine de sable qui s'était mise dans ses plans, mais il ne savait pas encore que quelque chose n'allait pas aussi gravement. Là, il était en train de manger, de boire, tout allait bien. En une seconde, tout bascule. Il fut saisi de terreur. Et le roi, dans sa colère, se leva, quitta le festin. Il revient du jardin, il voit Aman qui est encore près de la reine, il croit qu'il veut abuser d'elle. Et il dit, mais c'est pas possible, tu vas aller jusqu'où? Dans ta méchanceté, dans ta folie. Dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, on voit là le visage d'Aman. Et Harbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi, voici le bois préparé par Aman pour Mardoché, qui a parlé pour le bien du roi, est dressé dans la maison d'Aman, à 25 mètres de hauteur. Et le roi dit qu'on y pende Aman. Aman avait préparé sa propre perte, sa propre mort. Le décret du roi, le décret de mort qu'Aman avait voulu, s'est tourné en un décret de mort contre lui-même. C'est lui qui était pendu au bois. C'est lui qui était mis à mort à la place de Mardoché. Et la colère du roi s'apaisa. Donc là, il y a un échange. Mardoché devait mourir et Aman meurt à la place. Il y a un deuxième échange, parce que là, ce n'était pas fini. Tous les Juifs devaient être encore tués au 13 du mois d'Adar. Ce n'était pas terminé. Ces décrets ne pouvaient pas être annulés. Le roi ne pouvait rien faire contre ça. C'était en route. Le décret était encore en train d'agir. Et la mort devait encore passer par le peuple, sur le peuple. Et on lit au chapitre 8, verset 11. Donc Esther, elle intervient une deuxième fois. Elle intercède une seconde fois. Le roi accepte encore une fois de faire quelque chose. Il fait un deuxième décret, verset 11. Par ses lettres, le roi donnait aux Juifs, en quelque ville qu'ils soient, la permission de se rassembler, de défendre leur vie, de détruire, de tuer, de faire périr, avec leurs petits-enfants et leurs femmes, tous ceux de chaque peuple et de chaque province qui prendraient les armes pour les attaquer et de les piller en un seul jour. Il y a un contre-décret qui vient. Le peuple de Dieu peut se lever, prendre les armes et détruire les ennemis du roi, leurs ennemis. Amen. Il y a un deuxième échange. Et ce sont maintenant les autres qui voulaient les tuer qui sont morts. Il y a eu 75 000 tués. Le peuple juif a pu vivre et ce sont les autres qui sont morts. C'est l'échange du Seigneur. Il devait y avoir de la mort et ce ne sont pas ceux qu'on croyait qui sont morts. Alléluia. Je voudrais arriver à l'interprétation un peu de toutes ces choses. Donc, première partie, Israël et l'Église. Est-ce qu'on peut prendre ensemble dans Romains 11 ? Romains 11. Donc, Israël, Vastie, elle est mise de côté, elle est rejetée. Esther est choisie à sa place. Alors qu'est-ce que ça signifie pour nous? Est-ce que ça veut dire que Israël est définitivement rejeté? Nous savons bien que non. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché verset 11, loin de là? Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens. Or, si leur chute a été la richesse du monde, est-ce que vous connaissez cette expression? La chute d'Israël est devenue la richesse du monde. Amen. La richesse du monde. Je vous le dis à vous, païens, etc. Verset 15. Si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde. Le Seigneur a permis la chute d'Israël. C'était la richesse du monde et la réconciliation du monde. Et après, le Seigneur, il dit, qu'est-ce que ce sera leur réintégration? Donc, Israël est destiné à être pas désintégré, mais réintégré. Et ce sera une résurrection d'entre les morts. Donc, il y a un espoir pour Israël. Il sera réintégré. Mais il y a eu entre-temps la richesse et la réconciliation du monde pour l'Église. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on peut prendre ensuite dans... Je voudrais juste souligner au verset 20. Non, si tu te... au verset 18. Ne te glorifie pas aux dépens des branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je sois greffé. C'est vrai. Mais toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Donc Vasti nous parle. Elle nous dit, attention, si tu marches dans la crainte de Dieu, dans l'amour de Dieu, tu es destiné à vivre comme Esther, une reine bien-aimée qui vit en proximité du roi. Mais il y a une chute qui est possible. Tu peux être enlevé si tu commences à vivre selon tes voies, pour toi-même, à ta façon, selon ta propre volonté, en méprisant ce que Dieu te demande. Si les branches qui étaient naturelles ont pu être enlevées, les branches qui ont été ajoutées peuvent aussi être enlevées. Et parce que toi, tu as pu être ajouté, les bonnes branches pourront encore plus être ajoutées. Il y a donc un avertissement de Dieu de considérer l'amour de Dieu et sa sévérité. Amen. C'est important. Je vais essayer d'allonger pour ne pas faire trop long, de raccourcir, je veux dire. Ensuite, les échanges. Qu'est-ce que ça nous parle, les échanges? Ce bois qui a été levé nous parle de la croix. À la croix, il y a eu un échange. Il y a eu quelqu'un qui devait mourir. Et de la même façon qu'il y a eu un échange d'un homme méchant qui est mort pour un homme bon, à la croix, il y a eu un échange. Un homme bon qui est mort pour un méchant. Tu devais mourir. C'est toi qui devais être pendu à la croix. C'est toi qui devais mourir. C'était ton avenir. Tu ne pouvais pas y échapper à la mort. Et le juste, le Fils de Dieu est mort à ta place. Il a pris ta place et il est crucifié à ta place. Et celui qui a porté la colère du roi, c'est le Fils de Dieu. Il a porté ta colère. Et en même temps, quand le Fils de Dieu est mort, l'esprit d'Aman a été crucifié avec Christ. En Christ, tout ce que Aman représente, la chair, la méchanceté, ce que le monde peut offrir, a été crucifié avec Christ et c'est mort en lui. Aman est vaincu à la croix. Le Fils de Dieu est ressuscité. Les décrets de mort ont été brisés par la croix. Les décrets de mort sont brisés maintenant par notre intercession. Et nous devons amener des décrets de vie pour Israël, pour l'Église, pour les nations. Il y a des décrets de vie que l'Église doit porter. On ne doit pas seulement prier et supplier, on doit prononcer des décrets de vie et briser les décrets de mort. Je raccourcis un petit peu. Vasti et Aman nous montrent qu'il y a pu y avoir des échecs, mais qu'il y a eu de la réconciliation. C'est comme si Vasti est racheté en Esther et Aman est racheté en Mardoché. Par la croix, c'est comme si chacun devenait l'autre. Et nous sommes en Christ, c'est ça qu'on a vécu. On était tous des vastis. On était tous perdus. On avait été déchus de notre position. On était perdus et on est devenus des esters. On est redevenus des bien-aimés, des recherchés et des désirés. C'est le rôle du rachat. Et je voudrais dire le mot réconciliation. C'est ça que ça veut dire être réconcilié. On était perdus et on est redevenu une position de valeur. Aman a été racheté et réconcilié en Mardoché. C'est ce que toi tu vis spirituellement. Et je voudrais juste terminer par ce passage dans Corinthiens. 2 Corinthiens 5. C'est ce que j'ai lu tout à l'heure. Il me semblait que pendant la Sainte Cène, Dieu vous voulait le dire. Mais c'est aussi un passage que je voulais partager maintenant. L'amour de Christ nous presse, parce que nous savons que si un seul est mort pour tous, tous sont morts. Il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Il y a eu un échange à la croix. L'échange. Christ est mort et nous sommes morts en lui, avec lui. Il est ressuscité et nous sommes ressuscités avec lui. Au verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Verset 18, tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Vous savez ce que ça veut dire être réconcilié? Ça veut dire être restauré dans la faveur royale. Réconcilié, c'est être restauré dans la faveur royale. Tu as été restauré dans la faveur royale. Tu as retrouvé une position honorable, digne d'un chef, de valeur. Tu es devenu comme Esther aux yeux de Dieu, bien une reine bien aimée. Tu es devenu comme Mardoché, un superintendant de valeur dans lequel Dieu se confie. Le roi peut s'appuyer sur toi. Tu as retrouvé cette position par la réconciliation. C'est ça que ça veut dire être réconcilié. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Dieu a offert la réconciliation, ce rachat, cet échange au monde. Et qu'est-ce que réconcilier a un deuxième sens? N'être plus offensé par les fautes. Et c'est ça qu'il ajoute, en imputant point aux hommes leurs offenses, Dieu ne tient pas compte de nos fautes quand on marche dans son pardon et dans sa grâce et dans l'obéissance et dans la repentance. Nos fautes sont enlevées d'office. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Il y a en nous une parole de réconciliation. Et cette parole, elle s'adresse à nous-mêmes en premier. Ce matin, j'ai eu encore besoin. J'ai dû me demander pardon à moi-même parce qu'il y avait un poids sur ma vie. Je n'arrivais pas à m'en sortir. Et je me suis annoncé le message de la réconciliation. J'ai dit, je te demande pardon pour les choses que tu n'as pas bien faites ou que tu n'arrives pas à faire. Et j'ai annoncé le message du pardon. Je me suis dit, je te pardonne. Je me suis annoncé moi-même le message de la réconciliation. Et je me suis réconcilié avec moi-même. J'ai un message de réconciliation où je peux dire à mon âme, tu es réconcilié avec Dieu. Dieu te pardonne et je te pardonne au nom de Jésus. Je te pardonne. Et j'ai un message de réconciliation pour les miens. Pour dire qu'ils sont réconciliés, ils sont pardonnés. Ils sont en position de faveur. Et un message de réconciliation pour le monde. Chaque fois que la parole de Dieu parle de réconciliation, du même mot que là, elle parle de réconciliation du monde. Le monde a été réconcilié avec Dieu, mais il ne le sait pas. Il ne le sait pas. Et alors qu'est-ce qu'il dit? Nous faisons donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu suppliait par nous, exhortait, soyez réconciliés. Et ça veut dire ce que ça veut dire, vous savez ce que ça veut dire être soyez réconciliés? Ne vous opposez pas au retour à la faveur royale, mais recevez tout ce que sa faveur vous offre maintenant. Ne vous opposez pas au retour à la faveur de Dieu, à ce que Dieu a pour vous. Ne vous y opposez pas et ne gardez pas sur vous une fausse culpabilité puisque Dieu ne tient pas compte de vos fautes. Si vous êtes repenti, si vous avez reçu son pardon, il ne tient pas compte de vos fautes. Mais recevez sa faveur, recevez la nouvelle position que Dieu vous donne et recevez tout ce que sa faveur vous offre maintenant. Amen. Et il termine, verset 21, « Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Le Seigneur redonne la définition de la réconciliation, l'échange, la remise en position de la faveur. Il y a eu un échange, il est devenu péché, il est devenu ton péché. Le mal que tu as fait, l'échec de ta vie, les souillures de ta vie, elles sont devenues les siennes. Il l'a fait, il est devenu lui-même cette personne du péché. Il a tout pris. Ta propre nature que tu sens honteuse peut-être, qui te fait honte ou qui t'abaisse, elle est devenue sienne. Il l'a faite sienne. Il l'a enlevée de dessus toi. Il l'a ôtée de dessus toi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris sa justice et il te l'a donnée. Qu'est-ce que c'est la justice? Ce n'est pas être au niveau zéro. Ce n'est pas être un compte de justice à zéro, de dire comme si tous les négatifs étaient enlevés, que tu repars à zéro. Ça, ce n'est pas l'échange. Dieu n'a pas remis les compteurs à zéro. Il t'a redonné un compte en banque rempli. La justice, c'est le fait que Jésus a fait tout ce qui était juste pour toi. Lui, il était déjà juste, il n'avait pas besoin de faire tout ce qui était juste pour lui-même, c'était fait. Il a dit, je fais tout ce qui est juste pour eux. Il a fait tout ce qui est juste pour toi, afin que sa justice devienne ton histoire. Tu as reçu un compte en banque de justice, tu as reçu une histoire de justice dans ta vie. Tu ne viens pas à zéro, tu ne viens pas à nu, tu viens avec une histoire de justice, une justice accomplie. La parole de Dieu nous dit que Jésus s'est sanctifié lui-même pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lui, pour sa part, il était saint. Et que s'il a dû se sanctifier, ce n'est pas pour augmenter sa sainteté. C'était pour afin d'obtenir un compte de sainteté qui te revienne. C'est comme s'il avait fait, comme quand on fait pour des enfants un compte en banque, qu'on met de l'argent dessus et qu'à sa majorité, il dit « Tiens, c'est à toi. C'est ton argent, c'est moi qui l'ai mis de côté. Pour toi, ça te revient. » Maintenant, tu peux l'utiliser pour ta vie. Jésus, c'est ce qu'il a fait. Il a fait un compte en banque de sainteté et de justice pour toi. Il a marché dans la justice et la sainteté, il les a accomplis. Il s'est sanctifié lui-même afin de te créer un compte qui t'appartienne. Et quand tu arrives à ta majorité, ça veut dire à la capacité de comprendre et de recevoir et que c'est à toi, il te dit, tiens, prends-le. C'est ta justice. Et c'est ta sainteté, c'est ton histoire et ton de justice et de sainteté, elle t'appartient afin que tu puisses y marcher, afin que tu marches dans la justice et la sainteté tous les jours de ta vie. Parce que c'est à toi et que ça t'appartient. Parce que moi je l'ai accompli pour toi. C'est à toi, ça te revient. Amen. Maintenant c'est l'heure qu'on aille retirer notre compte. C'est l'heure qu'on aille prendre notre part d'héritage. Ça nous appartient. Et maintenant, prends ta justice, prends ta sainteté, et tu y marches. Tu le revêts, et le Seigneur, au travers de ce compte qui t'appartient, va te donner d'y marcher jour après jour de plus en plus. Il va te révéler, comme nous disait Anne, les œuvres de justice et de sainteté qui ont été préparées d'avance pour toi, afin que tu y marches, jour par jour. Heure par heure, parce que c'est ta part, ça, c'est ta part et ça t'appartient. Amen. Alléluia, Jésus. Ah ben, Seigneur. Seigneur, nous ne peut que te dire merci et te dire nous voici. On veut répondre présent encore une fois. On ne veut pas se priver de la gloire de Dieu. Seigneur, on a été privé de la gloire de Dieu par notre misère, par notre péché. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et que nous sommes privés de la gloire de Dieu. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. Et Seigneur, merci pour le don gratuit. Et Seigneur, on veut apprendre à marcher dans le don. On veut recevoir le don. Seigneur, tu nous as fait des dons grandioses. Tu nous as fait des dons immesurables. Seigneur, merci pour le don de la réconciliation. Nous sommes réconciliés avec Dieu ce matin. Nous sommes retournés dans la faveur. Nous sommes de nouveau des amis de Dieu. Nous étions devenus ennemis. Et alors que nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Nous sommes ce matin réconciliés. Je parle à des réconciliés, à des amis de Dieu, à des bienvenus dans la maison du roi. La maison du roi, c'est votre maison. La maison du roi, c'est ta maison. Le palais royal, c'est chez toi. La salle du trône, c'est ta chambre, c'est ton salon, tu y es le bienvenu, tu y es désiré, tu y es attendu. Est-ce que tu es connu pour tes venues dans la salle du roi par la prière? J'ai lu cette phrase et elle me revient, qu'il y en a qui sont connus parce qu'ils sont venus par la prière devant le roi. Et le Seigneur veut te demander ce matin, est-ce que tu es connu par tes venues, par tes incursions dans la salle du roi, par le fait que tu viens, que tu t'assoies devant le roi, que tu prends ta place sur un des trônes ou sur le siège, sur le fauteuil, et que là tu es devant le roi ou à genoux, et que là tu es devant le roi et tu pries, tu loues, tu l'adores et tu intercèdes, et tu brises des décrets de mort sur des nations, et tu proclames des décrets de vie. Est-ce que tu es connu dans le ciel pour tes incursions devant le roi, pour tes incursions dans les lieux célestes? Est-ce que tu es connu? La Bible dit que tu es assis dans les lieux célestes. Mais est-ce que tu es connu parce que tu es venu t'asseoir sur le trône? Est-ce que tu es connu parce que tu es venu t'asseoir sur le siège qui était préparé pour toi? Est-ce que tu es déjà venu devant sur ce siège? Ou est-ce qu'il est souvent vide? Est-ce qu'il est souvent vide? Parce que tu as plein de préoccupations. Parce qu'il y a plein de choses qui t'arrêtent et qui t'empêchent de venir devant le roi. Est-ce que qu'un jour tu devras venir devant le roi, il te dira: souvent il est venu rester vide le siège. Je t'ai attendu. On avait des choses à partager. J'avais des choses à t'annoncer. J'avais des conseils du roi à partager avec toi. Je voulais partager ma vision. Je voulais partager mes visions sur les nations, ma vision sur ta famille. Et t'étais pas là, j'ai pas pu. Où est-ce qu'il pourra dire: oh là là, toutes ces heures qu'on a partagées ensemble, toutes ces heures où on s'est écouté l'un l'autre, toutes ces heures où tu as prié avec moi sur les nations, toutes ces heures où on a proclamé des décrets de vie, qu'on a brisé des morts, des décrets de mort, toutes ces heures où tu es venu comme Esther, j'ai tendu le sceptre royal et tu m'as dit: demande-moi, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Et tu m'as demandé ceci. Tu m'as demandé le salut de cette personne. Et je t'ai dit: je te le donne. Tu m'as demandé le salut de cette ville. Et je t'ai dit: je te le donne. Combien de fois es-tu venu devant moi? Et j'ai pu te donner ce que je voulais te donner. Ce que je t'avais préparé depuis l'éternité. Depuis la fondation du monde. Je te l'avais préparé d'avance. Combien de fois es-tu venu et me l'as-tu demandé? Combien de fois des choses que j'avais préparées pour toi ont dû rester rangées dans les placards? Parce que tu ne me les as pas demandées. Parce que tu n'as pas cru. Parce que tu n'as pas cru au rôle que je te donnais. Parce que tu n'as pas reçu la place qui était la tienne. Parce que tu n'as pas voulu rentrer dans la fonction que je te donnais. Parce que tu n'as pas cru que tu étais mon bien-aimé. Des œuvres n'ont pas pu être accomplies. Des villes n'ont pas été sauvées. Parce que tu n'as pas pu croire. Mais maintenant, ce jour-ci, ce matin-ci, c'est un jour nouveau. C'est un jour nouveau, mon peuple, où je t'appelle à entrer dans ma présence. À venir devant le trône royal. À t'asseoir sur le siège qui est le tien. Dans les lieux célestes. Et de passer du temps dans ma présence. C'est le temps. Parce que des choses nouvelles sont en train de venir. Parce que des décrets de mort ont été prononcés contre les miens, contre mon peuple, contre mon église et contre mes nations. Et ce n'est que toi qui peux briser ces décrets de mort. Et je veux que tu commences à venir. Et je veux que tu retendes, que tu viennes dans ma présence préparée, lavée par le sang, purifiée, oint d'une huile sainte, trempée par des parfums, préparée pour l'époux, comme une épouse royale. Tu viens devant mon trône et je te tends mon sceptre d'or. Et je te dis: que veux-tu ma princesse? Que me demandes-tu mon bien-aimé? Que veux-tu que je fasse pour ta vie? Que veux-tu que je fasse pour ta famille? Que veux-tu que je fasse pour tes voisins? Que veux-tu que je fasse pour ta ville? Que veux-tu que je fasse pour tes nations? Et il me tarde de te donner ce que tu me demandes. Il me tarde. Entre dans ton appel. Alléluia, Seigneur. Seigneur, on veut te demander pardon pour toutes les fois où on n'a pas été là. Je te demande vraiment que tu nous donnes la grâce de nous lever, comme Esther. Mardoché a dit à Esther: Esther, si tu n'y vas pas, Esther, c'est toi qui vas périr avec ta famille. D'autres se lèveront à ta place. Le peuple sera sauvé. Mais toi, tu vas périr si toi, tu ne veux pas te lever. Si toi, tu ne veux pas te préparer. Seigneur, nous voulons répondre à l'appel. Seigneur, nous voulons répondre à l'appel. On a beaucoup joué. On s'est préoccupé de plein de choses. mais on a oublié ton royaume. Ta parole de Dieu nous dit, cherche d'abord le royaume. Cherche le royaume de Dieu et sa justice. Cherche le royaume. Seigneur, on veut vraiment déchirer nos cœurs devant toi ce matin. On veut déchirer nos cœurs. Pardon pour tout ce qui a rempli notre recherche. Pardon parce que plein de choses ont rempli nos recherches. On a recherché, Seigneur, des tonnes de choses. Elles ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, mais elles nous ont oublié, elles nous ont fait oublier de rechercher le royaume. Et ce matin, Seigneur, nous voulons rechercher, nous voulons crier à toi, afin que nos cœurs puissent être libérés, déliés, Seigneur, de tout ce qu'ils a rempli. Donne-nous de te rechercher, de rechercher le royaume ensemble. Seigneur, nous voulons chercher le royaume de Dieu. Nous faisons vraiment ce pas envers toi de rechercher ton royaume et sa justice. Au nom de Jésus. Amen.